Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace, podcast en partenariat avec le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. On parle toujours du télescope Herschel en compagnie d'Hervé Haussel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien, chercheur du CNRS et vous travaillez au service d'astrophysique du CEA. Donc c'est une unité mixte de recherche. Vous êtes astrophysicien et vous vous intéressez à la formation des étoiles dans l'univers. Alors, on peut considérer aujourd'hui qu'Herschel va permettre de mesurer sans ambiguïté la quantité d'étoiles qui se forment dans l'univers à un moment précis. Ce qui est nouveau, c'est le sans ambiguïté. C'est important, ça.
Oui, tout à fait, parce que on est à un moment dans notre recherche où on s'est posé la question combien d'étoiles on va former dans l'univers. Quand l'univers avait à peu près la moitié de l'âge qu'il a à l'heure actuelle. Aujourd'hui, l'univers est à peu près âgé de 14 milliards d'années. On sait, quand il en avait à peu près 7 milliards d'années, qu'il se formait probablement 10 fois plus d'étoiles qu'aujourd'hui.
Il est moins fécond aujourd'hui.
Et cette fécondité a diminué graduellement, en fait. Et la question qu'on se pose, en fait, c'est est-ce qu'on sait... Donc, c'est un résultat qu'on a obtenu à la fois par des observations dans le domaine visible et puis dans le domaine du proche infrarouge et de l'infrarouge moyen avec les missions spatiales précédentes, notamment ISO. Mmh. Et on est en train de s'apercevoir qu'on a peut-être oublié certains phénomènes qui sont relativement importants et qu'il va falloir vraiment regarder en détail ce qui se passe du point de vue de la formation des étoiles, mais aussi de l'accrétion de matière sur les trous noirs très massifs qui se trouvent au centre des galaxies.
Alors, avant de rentrer dans le détail, ce que vous nous dites et ce que vous nous expliquez, c'est qu'en fait, on a aujourd'hui une idée très précise de l'âge des étoiles dans l'univers et en fait une sorte de courbe démographique avec les naissances.
Alors, oui, en fait, quand vous regardez une galaxie, et que vous la regardez en fait dans l'optique, vous allez voir surtout des étoiles très jeunes et très bleues qui sont extrêmement brillantes et qui sont beaucoup plus brillantes que toutes les autres étoiles que vous voyez. Ces étoiles, elles ont une durée de vie qui est relativement faible par rapport à la vie d'une étoile. Notre Soleil, il a 4 milliards d'années. Une étoile, disons, qui est 5 fois plus massive que le Soleil, aura une durée de vie qui sera de l'ordre de quelques millions d'années avant de finir sa vie en supernova. Ce qui fait qu'en fait, à un instant T, si vous regardez combien une galaxie contient d'étoiles jeunes, vous savez que dans le million d'années précédent, en fait, elle a formé une certaine masse d'étoiles. Et puis après, vous savez que si une galaxie forme, mettons, une étoile de 5 masses solaires, elle va en former 10 d'une masse solaire et 100 de 0 une masse solaire. Et donc vous pouvez remonter en fait à toute la quantité d'étoiles qui a été mesurée qui a été formée dans une galaxie.
Et ça, c'est la technique pour comprendre combien d'étoiles se sont formées. Aujourd'hui, dans la Voie lactée, notre galaxie, combien d'étoiles se forment, alors je veux dire par an, c'est peut-être un piège.
Non, c'est typiquement, on en forme à peu près 2 à 3 masses solaires d'étoiles par an. Alors, c'est ça qui est important, c'est que je suis en train de vous dire quelle masse d'étoiles je suis en train de former. Mais il faut bien savoir que donc ça pourrait être 3 soleils, ça pourrait être 30 étoiles, 30 naines brunes, ou je pourrais attendre 10 ans et former une étoile qui fasse 10 masses solaires. Donc en fait, sur un an, ça n'a pas tellement de sens, mais par contre, si vous regardez ça sur 1 million d'années, eh ben, vous allez former donc environ 30 millions de masses solaires, et donc vous allez former quelques étoiles très très massives et des millions d'étoiles qui sont de très petites masses, des milliers d'étoiles de très petites masses.
Alors, il y a ce qu'on voit, puis il y a ce qu'on voit pas quand même, parce que effectivement, on est dans un petit bras de galaxie, on a une vision entre guillemets assez limitée sur l'ensemble de la Voie lactée. Est-ce qu'on procède par extrapolation? On imagine la taille de la galaxie, le nombre d'étoiles qui se forment. Comment ça se passe?
Complètement. Alors, cette fonction de masse initiale dont Vincent vous a parlé, en fait, on suppose qu'elle est universelle. Et c'est un des grands problèmes de l'astronomie à l'heure actuelle, c'est que parfois on se pose la question, est-ce que cette fonction de masse est vraiment aussi universelle que cela? C'est-à-dire que on sait dans la galaxie typiquement qu'on va former N étoiles de 10 masses solaires et M étoiles de 1 masse solaire, et que le rapport M et N sera toujours le même, et on suppose que c'est aussi le cas quand on regarde l'univers, quand il avait 6 milliards d'années, voire 3 milliards d'années, quand on va de plus en plus loin dans l'univers, et quand on regarde à l'échelle d'une galaxie. On est obligé de faire ces raccourcis, mais on arrive quand même à partir de ces raccourcis, on est parfaitement conscient qu'il y a plein d'hypothèses que l'on peut tester après en faisant d'autres vérifications. Par exemple,
excusez-moi, mais ça veut dire que ça pourrait se passer autrement, que ce qu'on observe pourrait ne pas être constant dans l'espace et dans le temps.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, à l'heure actuelle, quand vous formez des étoiles, vous avez un milieu interstellaire qui contient, par exemple, de la poussière. La première génération d'étoiles que vous avez formées, il n'y avait pas de poussière, parce que pour faire de la poussière, il faut du carbone et du silicium. Après le Big Bang, on a de l'hydrogène, de l'hélium, et puis il faut une première génération d'étoiles pour former ce carbone et ce silicium. Donc, en fait, la formation d'étoiles, quand l'univers est vraiment très très jeune, elle se passe peut-être de façon complètement différente de la façon dont la formation d'étoiles se fait de nos jours, telle qu'on l'observe dans notre galaxie. Mais on est quand même, on est curieux, on a envie de savoir ce qui se passe quand l'univers était plus jeune, et ce qu'on va, on essaie de d'utiliser les observations, ce qu'on connaît de l'univers de nos jours, et puis des modèles, des calculs, de façon à essayer de comprendre un peu ce qui se passe à grand redshift, mais on ne le sait... on n'en est pas vraiment sûr à 100%.
Ça veut dire que le taux de formation d'étoiles pourrait avoir varié en fonction des conditions qu'on trouve dans les galaxies. Plus de poussière, moins de poussière, plus de gaz.
Voilà. Alors, ce qu'on va mesurer, en fait, quand on regarde une galaxie lointaine, c'est qu'on va essayer de comprendre combien d'étoiles elle forme. C'est ce qu'on appelle le taux de formation d'étoiles. C'est-à-dire que on parlait, là, est-ce que la galaxie forme environ 2-3 masses solaires d'étoiles par an? Quand on va regarder des galaxies dans l'univers plus lointain, on va essayer de savoir, elles aussi, cette galaxie, combien elle forme d'étoiles. Donc, pour ça, on va essayer de regarder quelles sont les étoiles jeunes, de compter ces étoiles jeunes qui émettent beaucoup. Et comme en fait ces étoiles naissent dans des cocons de poussière, en fait, bien souvent on ne voit pas directement ces étoiles jeunes, mais on voit l'émission de ces étoiles jeunes qui est très énergétique en fait, est absorbée par la poussière et rayonnée dans l'infrarouge. Donc on va aller le voir dans l'infrarouge, on va essayer de comptabiliser quelle est la quantité de rayonnement infrarouge qui provient principalement de ces étoiles jeunes, et le principalement est important là. Et à partir de cette mesure du rayonnement infrarouge, on va pouvoir en déduire le nombre d'étoiles jeunes. Donc c'est une mesure qui est quand même pas directe.
Un billard à trois bandes.
Ah, c'est un billard à trois bandes. Ouais. Et puis, une fois que l'on a ça, on va le faire pour toutes les galaxies qui sont dans une zone d'univers, essayer de comprendre en moyenne, dans l'univers, à telle époque, combien il se forme d'étoiles. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, avec des observations du télescope spatial, puis après d'ISO, qu'en fait, il se forme à l'heure actuelle, 10 fois moins d'étoiles qu'il s'en formait il y a 6 milliards d'années dans l'univers. Et on se pose la question, pourquoi? Et puis on se pose la question aussi, mais finalement, est-ce quand on remonte encore plus loin dans le temps, quand on essaie d'aller il y a 9 milliards d'années, combien d'étoiles se forment-ils? Est-ce que ça continue à diminuer? Est-ce que ça reste sur un plateau? Ou est-ce que ça redescend? C'est-à-dire qu'on sait qu'à une époque, on ne devait pas former beaucoup d'étoiles dans l'univers.
Vous savez que c'est grave, ça, en termes de démographie. Hein, quand il n'y a pas de renouvellement de population, la population vieillit.
Tout à fait. Hein? Tout à fait. C'est le destin qui nous attend un petit peu. C'est qu'on va former de moins en moins d'étoiles et on va se retrouver dans un univers qui va être de plus en plus vieillissant.
Un papy boom.
Voilà.
Est-ce que les nuages de poussière ne cachent finalement que de l'information concernant les étoiles, ou est-ce que l'astrophysicien que vous êtes a tant d'autres surprises et d'autres informations de ces nuages?
Non, alors il y a deux choses. Un des développements vraiment très importants de ces dernières années, ça a été de réaliser qu'il y a une autre classe d'objets qui est importante, peut-être, dans le développement et l'évolution d'une galaxie. C'est le trou noir massif qu'il y a au centre de cette galaxie. On s'est rendu compte, et c'est quelque chose qui finalement est assez étrange quand on y pense, que la masse de ces trous noirs est très bien corrélée avec la masse des bulbes des galaxies. Et quand on y pense, c'est quelque chose d'assez étrange, parce que un trou noir supermassif au centre d'une galaxie, c'est quelque chose qui fait quelques parsecs, c'est tout petit, c'est l'échelle du système solaire.
Oui, très dense.
Très dense. Et le trou noir et le bulbe d'une galaxie, c'est quelque chose qui fait des milliers et des milliers de parsecs.
Qu'est-ce que c'est que le bulbe?
Alors le bulbe, c'est le bulbe d'une galaxie, c'est l'espèce de sphéroïde que vous trouvez au centre d'une galaxie qui occupe environ le premier kiloparsec. Mmh. Et après, normalement, c'est dans une galaxie spirale, après vous allez avoir un disque qui va s'étendre plus loin, en fait.
Donc c'est vraiment le noyau, si je cherche une image, si la galaxie est un abricot, c'est le noyau, quoi. Enfin, c'est encore plus petit que... C'est le cœur du noyau, Marc Sauvage.
En fait, il y a des galaxies qui ne sont que des bulbes et que les astronomes amateurs connaissent bien, c'est les galaxies elliptiques, hein, qui sont ces structures, ces gigantesques rassemblements d'étoiles qui justement pas de structure observable. Et même les galaxies spirales, en fait, comme la nôtre, possèdent en leur cœur une structure, un assemblage d'étoiles qui est plus vieux que le reste de la galaxie, souvent, et qui a une structure, cette fois-ci non plus de disque, mais une structure tridimensionnelle d'ellipsoïde. Et c'est ça qu'on appelle le bulbe dans une galaxie spirale, c'est cette région centrale qui est plus ou moins grande suivant le type de galaxie qu'on est en train d'observer, mais qui effectivement a des échelles de taille qui sont de l'ordre du kiloparsec.
Alors, un rapport de proportionnalité, nous expliquez-vous, Marc Cosel, qui lie le centre de la galaxie, donc le noyau, le bulbe, et le trou noir central,
voilà.
Le trou noir hypermassif.
Le trou noir supermassif qui se trouve au centre, et donc on suppose qu'il y a une évolution, une coévolution de ces deux objets. Et alors, ce qui se passe, en fait, c'est qu'un trou noir au centre d'une galaxie, en fait, il accrète du gaz. Il accrète beaucoup de poussière, il rayonne d'un rayonnement extrêmement énergétique, il va chauffer cette poussière, et cette poussière, en fait, le masque, et rayonne elle aussi dans l'infrarouge. Ce qui fait que quand vous regardez une galaxie dans l'infrarouge, cette émission peut venir soit du trou noir supermassif, soit de la formation de la poussière, soit des deux. Et on pense que souvent, les deux phénomènes vont se produire. Alors l'avantage, en fait, c'est que le trou noir supermassif génère des phénomènes physiques extrêmement énergétiques, donc va chauffer énormément la poussière qui l'environne. Donc cette poussière va être plus chaude que la poussière qui va être chauffée par de jeunes étoiles. Et donc on pense qu'on va arriver à faire la différence entre ce qui est l'effet d'un trou noir supermassif et ce qui est vraiment l'effet de la formation d'étoiles en allant regarder dans l'infrarouge moins lointain et le submillimétrique, où on va voir finalement la poussière entre guillemets froide qui est due à la formation d'étoiles, et puis la poussière, on va l'appeler tiède, qui est dû au trou noir supermassif, et donc de pouvoir vraiment mesurer les deux phénomènes. Et ça, ça va être vraiment une première que va nous permettre Herschel, parce que jusqu'à présent, en fait, ce qu'on a pu faire, c'est qu'on a travaillé dans l'infrarouge moyen, par exemple avec ISO. On a tout détecté cette poussière, mais là, on n'avait pas vraiment la possibilité de dire si c'était dû à des trous noirs ou si c'est dû à la formation d'étoiles. Et on a principalement comptabilisé que c'était dû à la formation d'étoiles. Et on sait pas à l'heure actuelle si on avait vraiment complètement raison.
Réussir à séparer les choses, hein, c'est cela.
Voilà.
Il vous reste quand même à m'expliquer comment un trou noir peut chauffer un nuage de poussière, parce que l'image du trou noir, pour moi, c'est quelque chose qui, justement, n'a pas d'interaction avec l'extérieur, autrement que si on s'en approche très près. Donc, comment peut-il chauffer entre...
Alors, justement, c'est en s'approchant. C'est-à-dire qu'en fait, le trou noir lui-même ne va strictement rien faire. Par contre, c'est une masse très importante, donc il va accréter de la matière. Alors cette matière, elle va tomber en tourbillonnant vers le trou noir, et elle va former ce qu'on appelle souvent un disque d'accrétion. C'est-à-dire qu'elle va tomber, comme elle est en rotation en fait, elle va tomber et elle va se mettre sur un disque qui lui est très dense et dans lequel il y a des phénomènes de frottement très très intense qui va chauffer la matière et qui va la chauffer de façon vraiment très très importante. C'est-à-dire que quand vous arrivez vers les dernières orbites stables avant de tomber sur le trou noir, on a des densités qui sont très très élevées, et là on arrive à avoir des phénomènes tellement énergétiques qu'on arrive à avoir de l'émission dans le domaine des rayons X, par exemple.
Pourquoi aller chercher au centre des galaxies? Finalement, les trous noirs hypermassifs ou massifs sont au centre. Il y a plein d'autres endroits où il y a des nuages de poussière, où vous pouvez faire vos mesures pour regarder le taux de formation des étoiles.
Mais alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on regarde dans l'univers un peu lointain, et même pas très loin, de notre point de vue, en fait, une galaxie, c'est un point. C'est-à-dire, c'est une source... quand on regarde avec Herschel, en fait, on a une résolution de l'ordre... On va avoir une résolution de l'ordre de 6 arcs secondes sur le ciel. C'est-à-dire, c'est vraiment... C'est comme regarder une petite fraction de la surface de la Lune. C'est vraiment une très très bonne résolution. Mais une galaxie à cette échelle-là, c'est vraiment un point lumineux. Donc on ne fait absolument pas la différence entre un bras spiral ou le centre. On récupère toute l'émission de la galaxie d'un seul coup.
Donc il faut intégrer, y compris ce qu'il y a au centre et qui est tout petit physiquement, mais qui a beaucoup d'importance sur l'émission thermique.
Exactement.
Alors est-ce qu'avec Herschel vous vous allez apporter des résultats, je veux dire nouveaux, fondamentaux, ou est-ce que vous vous contentez de raffiner ce que l'on connaît?
Non, alors on va aussi probablement dans un premier temps, il y aura probablement des surprises. Il y en a, ouais. À chaque fois qu'on ouvre une nouvelle fenêtre, on a toujours des surprises. À chaque fois qu'on. Alors, la deuxième chose aussi, c'est que jusqu'à présent, en fait, quand on a réussi à faire les études dont je vous ai parlé, pour l'instant, jusqu'à des redshifts de l'ordre de 1. C'est-à-dire, en fait, quand l'univers avait jusqu'à des âges de 6 milliards d'années, il y a 6 milliards d'années environ. On va amener ces études jusqu'à des redshifts de l'ordre de 3, 4, peut-être 5.
Il faut que vous m'expliquiez le redshift.
Alors,
cette affaire-là.
Parce que vous savez que quand on observe, donc quand on a des décalages spectraux, des cosmologiques vers le rouge, c'est ce qu'on appelle le redshift. Donc, c'est un terme anglais. Plus une galaxie est lointaine, plus sa vitesse, du fait de l'expansion de l'univers, en fait, plus sa vitesse va être élevée. Sa vitesse de récession va être élevée, et en fait, plus la lumière que l'on reçoit, qui est émise par cette galaxie, va être décalée vers le rouge. Donc, quand je regarde, plus regarder un décalage vers le rouge élevé, ça veut dire regarder très loin, et ça veut dire regarder quand l'univers était très jeune. Par exemple, je regarde une galaxie qui a un redshift de 3, en fait, l'univers avait à peu près 3 milliards d'années. Il était très très jeune. Un redshift de 2, l'univers avait 5-6 milliards d'années. Un redshift de 1, il en a 8.
D'accord.
Et aujourd'hui, il en a 14. Alors, ce qui est absolument fabuleux avec Herschel, c'est que on va pouvoir détecter le pic d'émission de la poussière, de la formation d'étoiles. Comme Vincent vous l'a expliqué, il se trouve à peu près à 100 microns. Si je regarde maintenant un décalage cosmologique vers le rouge, ce pic-là, je vais l'observer à 200 microns. Si je regarde un décalage cosmologique vers le rouge de 2, je vais l'observer à 300 microns. On est absolument, complètement dans les bandes d'observation d'Herschel. Ce qui fait que, en fait, et je suis toujours en train de suivre le pic, c'est-à-dire l'endroit où je reçois le plus de lumière de mes objets. Ce qui fait qu'en fait, il y a un phénomène très intéressant, c'est que l'objet va être à peu près de la même brillance, quelle que soit la distance à laquelle il va se trouver pour nous. Ce qui va nous permettre de détecter des galaxies qui sont en train de former des étoiles, ou des trous noirs supermassifs qui sont en train d'accréter énormément de matière jusqu'à des distances très très importantes.
Donc votre objectif va consister à nous expliquer comment l'univers s'est peuplé au fur et à mesure du temps entre le moment où ça a démarré entre guillemets et l'univers d'aujourd'hui.
Alors
ça c'est aussi pour toujours le rattacher à la démographie, c'est une population mais cette population est apparue, elle s'est constituée. Comment l'univers s'est-il peuplé?
Exactement. À part que on ne pourra commencer qu'à partir de la deuxième génération d'étoiles puisqu'on regarde dans la poussière. Et que la première génération d'étoiles, on n'avait pas de poussière. Donc, avec Herschel, on va pouvoir remonter très loin, mais on ne pourra quand même pas remonter jusqu'à vraiment la toute première génération d'étoiles, les premières galaxies.
Alors, on peut pas s'empêcher de comparer avec la star, des télescopes spatiaux, Hubble. Quelle différence entre Herschel et Hubble pour l'astrophysique, pour la cosmologie?
Alors, je pense, en fait, que Herschel va probablement être à l'origine du même genre de révolution que Hubble l'a été quand, par exemple, les images de ce qu'on appelait le champ profond d'Hubble sont sorties. C'est-à-dire qu'en fait, c'est grâce à ces images, on s'est rendu compte, et c'est d'ailleurs sur ces images qu'ont été mesurés les taux de formation d'étoiles en regardant les photons UV, ce coup-ci des galaxies. On a pu remonter jusqu'à des redshifts, jusqu'à des distances très très importantes. Mais on n'avait pas une vision complète de ce qui se passe. Et grâce à Herschel, je pense vraiment que ça va être une révolution du même type dans l'infrarouge.
Merci Hervé Yossel. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment au prochain épisode.